Bien. Erev Tov, donc Erev Tov les coulames, et sans plus attendre, sans transition, on commence par de la musique. Et voilà Rick Einstein qui ouvre notre cours de ce soir et qui nous chante à la gloire de cet homme qui se baladait avec son fusil, son épée et sa Torah. Aujourd'hui, on va parler d'un homme extraordinaire, d'un cavalier au grand cœur, d'un homme qui va être tellement important que personne ne le connaît. Je parle aujourd'hui de ce personnage extraordinaire qui a une statue à son effigie. Mais attention, quand je te parle d'une statue à son effigie, il y a plein de gens qui ont des statues à leur effigie. Mais on n'a pas souvent de gens qui ont une statue. Et comment te dire, cette statue-là, elle met en scène un rabbin qui est aussi un motard. Alors ça, surtout qu'à son époque, il n'y avait pas de moto. C'est quand même pas mal. Eh oui, les amis, je vous montre ici la statue de l'homme qui va être notre personnage de la soirée. Attention, tenez-vous bien. Et voilà.
Wow.
Aujourd'hui, nous parlons. Alors, je te montre la photo de la statue du côté avec les fameuses ailes.
C'est un cours sur les Harley Davidson.
Exactement. Exactement. Les amis, sans plus attendre, aujourd'hui, nous parlons de Rabbi Yoel Moshe Salomon. Rabbi Yoel Moshe Salomon. Et là, tout de suite, je te dis que tu ne sais pas de qui on parle. Tu n'as jamais entendu parler de lui. Et pourtant, ouah, Rabbi Yoel Moshe Salomon. Alors, on va commencer notre histoire quand Rabbi Yoel Moshe, il est tout petit. Il est tout petit. Et quand il est tout petit, il adore une chose. Il adore se retrouver entre les jambes, sur les genoux de son grand-père. Son grand-père, oh là là, mais quel homme! Rabbi Shlomo Zalman Tzoref. Rabbi Shlomo Zalman Tzoref, Rabotai. Mais c'est qui ces noms-là? Est-ce que ces noms doivent nous évoquer des choses? Eh bien oui. Rabbi Shlomo Zalman Tzoref, il fait partie des élèves du Gaon de Vilna, de ces fameux élèves qui arrivent en Israël. Il arrive en Israël, et Rabbi Shlomo Zalman Tzoref, tout son périple pour arriver en Israël, il le raconte à son petit-fils, Rabbi Yoel Moshe. Rabbi Yoel Moshe Salomon, vous allez me dire pourquoi ils n'ont pas le même nom? Deux secondes, ça va venir. En tout cas, il a tort, il adore le petit Yoel Moshe, écoutez les histoires de papy. Et il a surtout une histoire qu'il adore plus que toutes les autres. Il adore cette histoire-là parce que il sait que ça n'arrivera plus dans l'histoire du peuple juif. Imaginez, est-ce que on connaît des juifs séfarades qui s'habillent comme des ashkénazes? Ah bah oui. Eh oui, ça on connaît. Ça on connaît, on en voit tous les jours dans toutes les yeshivot. Des mecs qui sont habillés en costume avec un borsalino et qui disent qu'ils ne veulent pas déroger de ce que leurs ancêtres s'habillaient. Bon, mais l'inverse, est-ce qu'on connaît l'inverse? Est-ce qu'on connaît des juifs ashkénazes qui s'habillent en séfarade? Ah, ça c'est moins connu. Ça c'est moins facile à trouver. Et pourtant, il y en a eu. Et pourtant, il y en a eu parce qu'il y a eu une époque où, eh bien, tenez-vous bien, les Ashkenazim n'ont pas le droit d'habiter à Jérusalem. De quoi parle-t-on? Imaginez-vous, si je vous montre ce dessin-là, eh bien, on parle de gens qui ont tous des noms qui terminent en Vitch, en Ski, en off, autant te dire, pas vraiment des Marocains du Sud. 1720. À cette époque-là, Rabbi Yehuda HaSid a construit la synagogue de la Hourva. Il a construit la synagogue de la Hourva qu'on connaît au centre de la vieille ville de Jérusalem. Il a emprunté de l'argent aux Arabes, mais le problème, eh bien, c'est que les Arabes, ben, ils ont dit, ok, on a prêté de l'argent, mais on veut récupérer. J'ai dit 1720, c'est 1700 autant pour moi. Ils veulent récupérer l'argent qu'ils ont investi. Et le problème, c'est que juste après l'inauguration de la synagogue de la Hourva, eh bien, Rabbi Yehuda HaSid meurt. Il meurt de manière assez brusque et personne ne comprend ce qui s'est passé. Seulement la communauté juive de Jérusalem, et donc la communauté Ashkenaz, qui vient de suivre Rabbi Yehuda HaSid, qui vient d'Europe de l'Est, eh bien, est complètement perdue, n'arrive pas à rembourser les dettes qu'ils ont envers l'Empire ottoman. Et les Ottomans, non seulement vont brûler la synagogue, mais vont décréter qu'à partir de maintenant, tous les Juifs ashkénazes n'ont plus le droit d'habiter à Jérusalem. Reb Shloim Zalman Tzoref fait partie de ces Juifs qui arrivent et qui veulent à tout prix habiter à Jérusalem. Comment faire ? Les Sfaradim, eux, ils ont leur Bate Knesset. Et eux, ils sont en règle avec les autorités. Donc, les Sfaradim ont le droit d'habiter à Jérusalem. Eh bien, pour la première fois, et peut-être la seule fois de l'histoire, les Ashkenazim vont s'habiller en séfarade, vont apprendre à parler avec l'accent séfarade pour pouvoir rester à Jérusalem. Les vestiges de ça, on les connaît aujourd'hui. Quand vous voyez des chassidim se balader à Mea Shearim ou dans la vieille ville, habillés avec une espèce de grande tunique comme ça, grande redingote, grand peignoir de bain rayé, beige et noir, qu'on appelle les Yerushalmim, eh bien en fait, cet habit-là, c'était l'habit des séfaradim traditionnels dans les murailles de la vieille ville il y a 150 ans. C'était un tissu qui venait d'Iran et c'était uniquement les séfaradim qui s'habillaient comme ça. Les ashkénazim qui se sont fait passer pour séfaradim ont commencé à s'habiller comme ça et c'est resté chez certains chassidim aujourd'hui. Rabotai, Reb Shlomo Zalman Tzoref, eh bien, il n'accepte pas cette situation et c'est lui qui va réunir l'argent pour rembourser l'Empire ottoman, permettre aux Ashkenazim de réhabiter officiellement à Jérusalem et également reconstruire la synagogue de Rabbi Yehuda HaSid, la synagogue de la Hourva. Autant te dire que le petit Yoel Moshe, qui grandit, je te dis, dans les jambes de son grand-père, eh bien, il entend ces histoires-là tout le temps et il va grandir comme étant un amoureux de la reconstruction. Un amoureux de la construction tout court, un amoureux de Eretz Israël. Ça, c'est le petit Reb Moïse, Yoel Moïse Slicha Salomon. Il naît en 1838 et il naît à Jérusalem. Il naît à Yerushalayim, il grandit dans les histoires de son grand-père, dans les histoires de son père également. Son père, eh bien, était ce qu'on appelle un Shadar, Mazé Shadar, Shlucha de Rabbanan. Il était un envoyé des tzadikim de Jérusalem, des rabbanim de Jérusalem, pour aller essayer de récupérer de l'argent pour eh bien, faire vivre le Yishuv Yehudi Be'eretz Israël. Mais à la différence de tous les autres Shadarim et à la différence de la majorité des gens qui habitent à Jérusalem, tant Rabbi Shlomo Zalman Tzoref que son fils, le père de Reb Yoel Moïse, Arav Shlomo Salomon, c'est pour ça qu'il va prendre le nom Salomon, eh bien, son fils travaille. Tant Reb Shlomo Zalman que Rabbi Salomon, que Reb Yoel Moïse, tous ont un métier. Et pour eux, c'est une importance fondamentale de ne pas vivre de l'argent qu'on reçoit des communautés de Chutz La'aretz. Ils vont en chercher pour le reste de la communauté, mais ils ne veulent absolument pas en être dépendants. Alors, Beseder Gamour, à un moment donné, Reb Yoel Moïse est envoyé en Europe. Pourquoi il est envoyé en Europe ? Eh bien, il est envoyé en Europe pour commencer à pouvoir étudier tranquillement. Pourquoi est-ce qu'à cette époque-là, on envoie en Europe pour étudier, ben, tout simplement pour des raisons très techniques, que les grandes yeshivotes, elles sont encore pour l'instant en Europe, on est à la fin du 19e siècle. Et donc, il part là-bas. Il part là-bas et très très vite, il se fait tout de suite reconnaître comme étant un Iloui, comme étant un géant. Il comprend très bien, il comprend très vite, il a étudié la Torah d'Eretz Israël. Et donc, eh bien, très vite, on lui propose, plusieurs fois d'ailleurs, d'être rabbin de communauté en Europe. Et il répondra toujours la même chose. Ma pitom, je ne suis absolument pas rabbin de communauté. Je suis un homme de Jérusalem. Il est hors de question pour moi de rester m'implanter là-bas. Seulement, pendant qu'il est en Europe, eh bien, il va évidemment profiter de chaque instant pour étudier, mais également pour apprendre des choses qu'il n'aurait pas pu apprendre en Israël. Par exemple, il va apprendre un métier. Quel va être son métier à Rabbi Yoel Moïse ? Eh bien, Rabbi Yoel Moïse Salomon, son métier, c'est d'être imprimeur. Il habite à Königsberg pendant un temps en Allemagne et il apprendra là-bas le métier d'imprimeur. Opa, il revient en Eretz Israël. Il revient en Eretz Israël, son père, eh bien, son père est décédé en 1865 dans une maguefa terrible et il vient de perdre son dernier repère. J'ai dit qu'il était extrêmement proche de son grand-père. Son grand-père est mort en 1851, assassiné dans les rues de Jérusalem par un arabe qui était là-bas. Il vivra donc toute sa jeunesse et toute sa formation sur la responsabilité de continuer son père et son grand-père, mais également sur la nécessité de pouvoir se défendre face aux Arabes si jamais il y a le besoin. Il revient donc en Israël, on a dit, et lorsqu'il revient en Israël, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il veut travailler. Et donc, la première chose qu'il fait, c'est tout simplement d'acheter les machines et de créer la première imprimerie à Jérusalem. À Botaï, vous imaginez la première imprimerie à Jérusalem. Ouah. Elle s'appelle, il va d'ailleurs, non seulement il va créer une imprimerie, mais il va créer le premier journal. Le premier journal de Jérusalem, le premier journal Bichlal en Eretz Israël, en hébreu, qui s'appellera Halevanon. Halevanon, par rapport au Beth Amigdash, qui s'appelle Halevanon. Et donc, voilà, l'affaire est lancée. Mais de quoi parle-t-on dans son journal ? Eh bien, il parle et il commence, il écrit évidemment dans son journal, il est rédacteur en chef, mais il commence à transmettre ses idées. Quelles sont les idées de Rabbi Yoel Moïse Salomon ? Quelles sont ces idées, Rabotai ? Eh bien, ces idées sont très simples. Pour Rabbi Yoel Moïse Salomon, il y a un impératif. C'est quoi ? L'Aïtiashvout. Devenir indépendant. Quand on parle de Itiashvout et de devenir indépendant, quand on parle de sortie des murailles, eh bien, on connaît évidemment le quartier de Yamin Moshe, on connaît le quartier de Nahalat Shiva. Mais qui a créé Nahalat Shiva ? Nahalat Shiva, le quartier qu'on connaît nous aujourd'hui, le quartier, c'est à côté de Ben Yehuda, c'est une petite rue comme ça, où il y a des fois un certain responsable de cours à Givat Shmuel qui y amène des musiciens. Je ne sais pas si vous connaissez un homme qui répondrait à ce descriptif.
Kikara Musica.
Alors, le Kikara Musica n'existait pas encore, mais le Kikara Musica, c'est dans le quartier qui s'appelle Nahalat Shiva. Et donc, si tu veux, Nahalat Shiva, pourquoi elle s'appelle comme ça ? Eh bien, parce qu'il y a 7 familles qui vont acheter les terres de Nahalat Shiva pour y construire des maisons. Sans l'argent, forcément, ni du baron de Rothschild encore, ni de Moshe Montefiore, ni la protection que cela amène. Et évidemment, vous aurez compris que parmi les 7 qui sont là, le dirigeant de cette communauté s'appelle Rabbi Yoel Moïse Salomon. Il construira sa maison là-bas. Et il sera le premier à y rester dormir, alors que pour tous les autres, Eh bien, au début, ils ont peur. Ils y habitent pendant la journée, mais ils reviennent dormir à l'intérieur des murailles. Lui, Rabbi Yoel Moïse, il reste à Nachalat Shiva. Parce qu'il est impossible d'être à moite-moite. Si on veut implanter, si on veut commencer à devenir indépendant par rapport aux murailles de la vieille ville, par rapport aux Ottomans, eh bien, il faut faire quelque chose. Il essaye de convaincre toutes les personnes qui sont à Jérusalem que ça ne vaut plus le coup de rester à l'intérieur des murailles, qu'il faut sortir, qu'il faut créer de nouveaux quartiers, qu'il faut créer de nouvelles maisons. Mais les gens ont peur. Les gens ont peur. Et à ce moment-là, ça marche. Nachalat Shiva, ça commence à prendre. Non seulement il y a les sept familles, mais il y en a d'autres qui sont arrivées. Mais il y a juste un problème. Il y a juste un problème, c'est que les Ottomans ne peuvent pas vendre des terres aux Juifs. Donc à chaque fois qu'on veut acheter un endroit pour créer une maison, il y a toujours des problèmes. Mais on a la solution. Vous vous rappelez que à l'époque de son grand-père, les Juifs ashkénazes ont été obligés de se déguiser en séfarades. Il y a des restes. Les restes, c'est quoi? C'est tout simplement que sa femme, Yael, elle parle parfaitement l'arabe. Et donc, à chaque fois qu'ils veulent acheter un territoire, elle se déguise en arabe et c'est elle qui va acheter de la main des Ottomans. Ils croient qu'ils vendent à une arabe. Très bien, le contrat de vente est rédigé. Et après, c'est Rabbi Yoel Moïse qui vient et qui continue à construire une maison. Bon, alors c'est pas mal cette histoire de, construire un quartier à Jérusalem. C'est bien bien fait. Mais Rabbi Yoel Moïse Salomon, il comprend que ça ne suffit pas. Si on veut véritablement parler de résurrection, Rabotai, si on veut parler de résurrection, on ne pourra pas se contenter simplement d'une shruna, d'un quartier à l'extérieur de Jérusalem. Non. Il va falloir véritablement prendre notre indépendance. Et pour cela, il faut créer une ville autosuffisante. Parce que les gens qui habitent à Nachalat Shiva, ils sont quand même complètement dépendants de la vie quotidienne des murailles de Jérusalem. Donc il dit non, il faut commencer à créer maintenant, ça y est, une ville auto-indépendante. À ce moment-là, ils ont un projet. Ils ont un projet. Un projet complètement fou. Que personne, et là je te le dis, personne, le baron de Rothschild, il n'est pas encore là. Et Montefiore, à part les quartiers aux abords de Jérusalem, il n'est pas là non plus. Et donc, personne n'y avait pensé parce que ce n'est pas pensable. C'est absolument... c'est pas jouable, Rabotai. Et pourtant, Yoel Moïse, lui, il pense que oui, c'est jouable. De quoi je suis en train d'essayer de vous parler, Rabotai? Rabbi Yoel Moïse Salomon, avec un groupe de 4 personnes, vont récupérer l'argent pour mettre au point ce projet complètement fou. Acheter un territoire où on va pouvoir créer une ville agricole. Une ville entière, pas un quartier. Et là, ils se disent, on sait exactement où on veut acheter notre territoire. On va acheter les plaines à côté de Jéricho, à côté de Jéricho. Pourquoi ils veulent acheter à Jéricho ? Pas pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est la première ville dans laquelle Béné Israël sont rentrés en Israël. Deuxièmement, parce que c'est le centre d'Eretz Israël. Troisièmement, parce que c'est à Jéricho que fait référence le livre de Hoshéa. Hoshéa, Navi, lorsqu'il dit « Venatatila et Kermea Misham ve et Emek Achor le Petach Tikva » que cette vallée de malédiction, à cause de la malédiction de Chiel Betaeli, devienne l'ouverture de l'espoir. Et donc, ils veulent acheter un territoire à côté de Jéricho. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le rachat de la terre, ça bug. Donc, on est obligé d'abandonner le projet Jéricho. Mais vous savez quel projet on n'abandonnera pas? Parce que Béhémet, le verset, lorsqu'il dit « Me'emek achor le pet artikva », ça fait référence à Jéricho. Mais vu que Jéricho, ça ne marche pas, on abandonne Jéricho, mais on n'abandonne pas le projet Petar Tikva. Rabotai, vous êtes en train de comprendre de quoi on parle. Rabbi Yoel Moïse Salomon, avant le baron de Rothschild, avant Montefiore, C'est lui qui va être le premier à construire le premier Yishuv en Eretz Israël. On parle toujours de Mikvé Israël, de Rishon Letzion. Aval tout ça, c'est 1882. Rabbi Yoel Moïse Salomon, on est 10 ans avant. Et sans l'aide du baron de Rothschild, il va trouver un territoire. Un territoire qui est impraticable. Ce sont des étendues de marécages. C'est pourri. Les Arabes qui habitent là-bas, eh bien, sont tous, ont l'air malades, ont l'air livides. Certes, il y a les eaux du Yarkon qui viennent dans cette région-là, mais tout le monde sait que ces eaux sont contaminées, inutilisables. Et donc, il y a un homme qui s'appelle Douran, un arabe, qui est prêt à leur vendre. Qui est prêt à leur vendre pour une seule raison. Parce qu'on sait tous très bien que ce n'est pas faisable. Que rien ne peut pousser ici. Rabbi Yoel Moïse, il dit, mais cet endroit-là qu'on est prêt à nous vendre, c'est là qu'on va créer notre yishuv. Seulement, ils disent, non, on ne sait pas si c'est faisable ou pas, techniquement. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ce n'est pas faisable? C'est vrai que c'est dangereux. Il y a Bémet, les gens qui meurent. Il y a la malaria, il y a la kadachat, il y a plein de maladies terribles. Donc, on fait appel à un spécialiste. Le spécialiste, il s'appelle le docteur Mazaraki. Le docteur Mazaraki est le plus grand mumché à cette époque-là des maladies maladies de marécage et tout ça machin. Il est très très bon là-dedans. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Il est très bon là-dedans. Et alors qu'est-ce qu'il va nous On l'amène et on essaye de voir. Il va analyser le terrain. Il va faire des prélèvements d'eau et il va essayer de nous dire est-ce que c'est faisable ou est-ce que c'est pas faisable. Et le docteur Mazaraki va rester avec eux pendant toute une journée dans ce terrain complètement abandonné, délabré. Et à la fin de la journée, il y a un petit bâtiment comme ça, un petit peu abandonné, pas très haut. Il monte sur le toit de ce bâtiment et il se met à scruter le ciel pendant plusieurs minutes. Rabbi Yoel Moïse lui demande « Ma, qu'est-ce que tu fais ?» Le docteur lui dit « J'attendais un signe. » « Un signe ? Un signe quoi ? Un signe de Dieu ?» Il dit « Non, j'attendais un signe pour être bien sûr de ce que j'allais vous dire maintenant. » « Mais de quoi tu parles ? Regardez le ciel. Et écoutez le ciel. » Les mecs, ils regardent dans le ciel et ils écoutent. Ils disent « On voit rien, on n'entend rien. » Et le docteur lui dit « Nachon, bidiouk, il n'y a aucun oiseau. S'il n'y a aucun oiseau, c'est qu'il n'y a rien à manger ici. C'est qu'ici, tout est mort. » C'était évidemment mon diagnostic déjà depuis le début de la journée. Mais je voulais être sûr. Et je voulais bien voir qu'il n'y ait pas d'oiseaux et il n'y en a pas. Je suis vraiment désolé, leur dit le docteur Mazaraki. Vraiment, je suis désolé. Vous avez certainement déboursé tout votre argent pour acheter ce territoire. Mais c'est complètement impensable de construire un village ici. C'est complètement utopique. C'est pas possible. Vous mourrez tous. Et le docteur Mazaraki commence à prendre son cheval et se dit qu'il va repartir vers Jérusalem. Et il rejette un dernier regard à ces 4 hommes qui ont mis tout leur argent et tout leur espoir dans l'achat de cette terre. Et ce même docteur vient de leur enlever tout l'espoir. Et il se retourne et il les voit enlacer les 4 en larmes. Alors il décide de revenir les voir et leur dire, pour les réconforter, en leur disant, vous savez, vous avez peut-être perdu de l'argent, mais vous offrez une santé financière et puis il vaut mieux perdre un peu d'argent ou même beaucoup d'argent, mais de rester en vie. Et à ce moment-là, Rabbi Yoel Moïse lui dit, « Kvoda doctor, vous n'avez pas compris, nos larmes ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de joie parce que nous venons de décider tous les 4 qu'on va tenter l'affaire. Mais vous êtes fous! Je viens de vous dire que c'était pas possible. Il dit oui, on a bien entendu que c'était pas possible. Ou bien, holzot, on va y arriver. Mais vous êtes complètement fous. Chez Yebatzlacha. Et Rabbi Yoel Moshe Salomon, avec ses quatre amis, ses trois amis, vont commencer l'épopée de celle qui va devenir M à Moshavot, la mère de tous les villages, parce qu'elle aura été la première. La première de tous les villages, Petach, Tikva. Oh, attendez, on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore, parce que c'est bien beau d'avoir trouvé le terrain, mais là maintenant commence le véritable combat. On parle de Rabbi Yoel Moshe Salomon. C'est un rabbi, c'est un rabbin. Il sait, il étudie la Torah, il écrit des livres. Non. Rabbi Yoel Moshe, c'est un agriculteur. Il n'a jamais appris à être agriculteur. Mais il a tout de suite compris qu'on ne pouvait pas utiliser l'eau du Yarkon. Donc, il faut trouver de l'eau douce, potable. Et on va commencer à creuser un puits. On va payer des Arabes pour qu'ils viennent creuser le puits. Eux, ils savent comment faire. Le problème, c'est qu'ils ont creusé déjà sur 12 mètres et ils n'ont pas trouvé d'eau. Or, les puits les plus profonds, à cette époque-là, sont sur 8 mètres. Et ils sont arrivés jusqu'à 12. Mais ils disent, aucun rapport, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau ici, c'est mort. Il fallait juste arriver à 15 mètres. Et lorsque finalement, ils arrivent à 15 mètres, ils trouvent de l'eau. Ça y est, la ville peut commencer à naître. Il y a de l'eau. Hoppa ! Mais tu voulais faire une ville agricole ? Il va falloir commencer à creuser des sillons, à planter des céréales. Tu veux que les gens ils soient autosuffisants, donc tu veux qu'ils vivent, tu veux qu'ils aient de l'agriculture. Mais rien ne pousse sur cette terre à cause de la malaria. Rien ne pousse. La terre a été complètement abandonnée. Et on voit Rabbi Yoel Moshe avec sa grande barbe commencer à pousser l'âne devant lui, la charrue, et on va commencer à creuser des sillons. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça marche. On réussit à planter des céréales et ça pousse. Et tous les Arabes à côté d'eux sont complètement abasourdis. Comment est-ce possible? Sauf que maintenant que ça marche, jusqu'à présent, les Juifs, ils ne représentaient pas une menace, puisqu'ils essayaient de faire quelque chose qui, de toute façon, va rater. Mais le problème, c'est que maintenant, ça marche. Et donc, eh bien, va commencer les problèmes. Tous les soirs, eh bien, les Arabes du quartier, de la région, essayent de venir détruire les récoltes juives. Il a encore en tête Rabbi Yoel Moshe, le pogrom de son grand-père. L'assassinat de son grand-père, il s'en rappelle. Et il est prêt à défendre son nouveau petit village. Et c'est armé de bâtons qu'il vienne répondre avec tous les hommes du village aux Arabes qui ont essayé de détruire les cultures. Et ils viennent et ils les frappent. À Jérusalem, on entend parler de ça et tout le monde dit « Mais vous êtes fous ! Vous allez vous attirer les foudres du gouvernement. » Et Rabbi Yoel Moshe dit, on ne sera plus jamais considéré comme des hommes faibles à qui on doit dicter si on a le droit de se balader avec des drapeaux dans la... Non, c'est pas ça, c'est autre chose. Ah, autant pour moi, j'ai bugué. Rabbi Yoel Moshe Salomon, il commence à se faire un nom qu'on ne peut pas embêter ces gens-là. Vaut mieux pas embêter ces gens-là. Et arrive le premier Leil HaSeder. Ça commence à être viable. Les femmes et les enfants habitaient encore à Jérusalem. Mais là, tout le monde emmène les familles. Vous imaginez ? Leil HaSeder, à Petah Tikva, dans le premier village juif reconstruit. Pas dans les vieilles communautés entre les murailles. Non. Le premier village juif. Tout le monde lui dit, mais ça n'arrivera pas, ça ne marchera pas. D'ailleurs, lui-même, Rabbi Yoel Moshe, il tombe malade. Il tombe malade de la kadachat Et à ce moment-là, les médecins lui disent, il faut que tu ailles à Jérusalem pour te soigner. Il n'y a pas assez à manger parce que, oui, ils réussissent à survivre. Mais on est ultra dans, il n'y a presque rien. On est au tout début de la ville. Ils sont autosuffisants, donc ils ont un tout petit peu de denrées, mais ils n'ont pas beaucoup à manger. Et Rabbi Yoel Moshe qui est malade, il doit reprendre des forces. Il retourne à Jérusalem. Il retourne à Jérusalem, il va reprendre des forces. Mais une fois qu'il a repris des forces, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Avant de repartir à Petah Tikva, il dit bon, il y a une opportunité à Jérusalem. On va acheter un autre territoire. Et boum, avec encore quatre autres personnages, il va créer le quartier de Mea Shearim. Non, parce qu'on ne s'arrête pas. Et puis finalement, eh bien, on revient à Petah Tikva et ça marche. Et ça marche. Petah Tikva ne fait que grandir. Il y a un nouveau Garim qui arrive et encore des familles. Et cette fois, les femmes et les enfants habitent maintenant constamment à Petah Tikva. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce jour incroyable. Ce jour incroyable, ça fait maintenant 4 ans que Petah Tikva est né. Et pour la première fois, Chag HaShavuot, Erev Chag HaShavuot, il va y avoir une véritable procession qui va partir de Petah Tikva à Dodan, à pied, jusqu'à Jérusalem, pour arriver à Shavuot et amener les Bikurim à Jérusalem. Il n'y a plus de Beth Amikdash. Mais pour la première fois, depuis 2000 ans, des Juifs qui ont fait pousser leur récolte de fruits vont amener leurs fruits au Beth Amikdash. Keilu au Beth Amikdash. Et qui est le Juif qui est en tête de la fanfare? Vous l'aurez compris, Rabbi Yoel Moshe Salomon. En Malasot. Alors que tout le monde lui dit que non seulement ça ne marchera pas, qu'on l'accuse également d'être responsable de la mort des futurs enfants, de la mort de tous ceux qui le suivraient, parce que non seulement quitter les murailles, mais en plus aller dans un endroit qui est complètement sous le sakana des maladies, et bien voilà. Seulement répond à toutes ces accusations Rabbi Yoel Moshe Salomon. Il répond, vous verrez qu'un jour, Rivevot Alfei Israël habiteront à Petah Tikva. Otaï, simplement pour que vous compreniez 2 secondes de quoi on parle. Petah Tikva, aujourd'hui, c'est 250 000 habitants. 250 000 habitants à Petah Tikva.
10 fois Givat Shmuel.
Et au centre du kikar central de la ville, la statue de Rabbi Yoel Moshe Salomon. Parce que sans lui, il n'y a pas de Petah Tikva. Et tu veux que je te dise mieux que ça? Sans lui, il n'y a pas non plus de Moshavot. Parce que le baron de Rothschild, il accepte d'aider les gens à créer Rishon LeZion, Mikvé Israël. Tout, on avait déjà expliqué quand on avait parlé du Rav Moïse Oliver. Mais il accepte parce qu'à Petah Tikva, ça marche. Donc parce qu'à Petah Tikva, ça marche, alors allons-y.
Ça fait des années que je travaille sur M à Moshavot, je ne savais pas pourquoi en fait, mais bon, à Petah Tikva.
Eh bien c'est ça. C'est exactement ça. Alors le problème, c'est quoi? C'est que ça ne s'arrête pas là. Rabbi Yoel Moshe Salomon, à un moment donné, va être lui aussi envoyé comme Shadar. Lui aussi va être envoyé, comme son père et son grand-père avant lui, vers les communautés de Chutz La'aretz pour récupérer de l'argent. Lorsqu'il arrive là-bas, dans les communautés, il est déjà connu. C'est Rabbi Yoel Moshe Salomon. C'est pas n'importe qui, le petit-fils de Reb Shlomo Zalman Tzorev, tout le monde le connaît. Et lorsqu'il arrive, eh bien, on va lui dire, tu sais quoi, il y a un endroit qu'il faut que tu ailles absolument visiter. C'est très, très important. Il y a un endroit, vas-y, vraiment, tu ne seras pas déçu. Tu ne seras vraiment pas déçu. Il dit, bon, bah, écoute, il y a là, chez Yé. Alors, où est-ce que je vais? Eh bien, on lui dit, tu sais, il y a une petite ville en Lituanie. Enfin, aujourd'hui, c'est la Pologne, la Lituanie, l'Omchané, là-bas, en Europe de l'Est. Il y a un rabbin très intéressant là-bas. Ce serait peut-être bien que tu ailles le voir. Et il va à Bioïsk. Et là-bas, il rencontre un rave qui est le rave de la ville, qui s'appelle le Rav Avraham Mitzrak HaKohen Cook. Et il va habiter chez lui. Il va habiter chez lui pendant plusieurs mois. Pendant les mois où il est Shadar, où il est en train de rassembler de l'argent des communautés. Il va donc découvrir qui est le Rav Cook. Tov. Et puis à un moment donné, il rentre à Jérusalem, il rentre en Israël. Il rentre en Israël et à ce moment-là, il construit un deuxième journal qui s'appelle Yehuda Virushalayim, dans lequel, cette fois, il parle uniquement de l'importance du travail agricole. Et puis à un moment donné, il va construire également la ville de Yehoud. Ah bah oui, parce que si déjà on est là, on ne s'arrête pas, hein. Le problème, c'est que les Arabes ne voient pas ça d'un bon œil. Parce que non seulement les Juifs, ils commencent à acheter des territoires partout, et en plus, ils réussissent. Donc non. Et donc, les Arabes, d'abord, essayent de piller à chaque fois. Mais bon, ça ne marche pas parce qu'ils se défendent. Donc, on trouve une autre solution. On va tout simplement porter plainte. Les Arabes portent plainte devant les autorités ottomanes. Comme quoi, ce sont des Juifs qui ont acheté les terres et on n'a pas le droit. Et donc, il faut les dégager de l'endroit. Maintenant, que les choses soient claires, le tribunal est déjà joué d'avance. Le procès est déjà perdu d'avance. Et Rabbi Yoel Moshe Salomon, il le sait que le procès est perdu d'avance. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a qu'une seule solution. Puisque nous, les Juifs, les autorités ottomanes ne nous calculent même pas, eh bien, nous devons aller voir quelqu'un qui va nous aider et qui, lui, sera calculé par les autorités ottomanes. Eh bien, c'est qui ce quelqu'un? On va voir le consul d'Allemagne. Ah, l'Allemagne, c'est le Kaiser. L'Allemagne, c'est Wilhelm II. L'Allemagne, c'est... Oh, hey, c'est une superpuissance d'Europe. On ne veut pas se mettre mal avec l'Allemagne quand on est l'Empire ottoman et qu'on est en déclin. Mais quel rapport le consul d'Allemagne? Ah ben j'ai oublié de vous dire, Rabbi Yoel Moshe Salomon a la nationalité allemande. Et donc il vient voir le consul d'Allemagne et il lui dit, on est en train d'éjecter, d'évacuer, de démanteler un citoyen allemand de la Terre Sainte. Vous allez quand même pas laisser faire ça! Et le consul d'Allemagne répond favorablement, il dit absolument. Et il vient voir les autorités ottomanes et ils disent « J'ai entendu dire que vous expulsiez un citoyen allemand. Écoutez-moi bien, sachez que si vous touchez encore une seule maison des citoyens allemands de Petah Tikva, nous prendrons ça comme une déclaration de guerre et je n'aurai pas d'autre choix que de faire venir les troupes allemandes pour régler le problème. » Ok, ich liebe dich. Tout va bien, calmez-vous, on ira, ok, on les laisse tranquilles. Et c'est comme ça que finalement, eh bien, de procès en procès, il rejouera à chaque fois la carte du citoyen allemand. Il remerciera énormément le consul d'Allemagne en Israël pour toute son aide. Et finalement, ça marche. Finalement, ça marche. Et dans le dernier procès, ils disent, ok, on va faire venir une équipe d'experts. Et on veut simplement, on fait venir aussi le consul d'Allemagne, et on veut que vous nous montriez exactement, vous nous tracez, vous nous montrez sur le terrain où sont les limites de ce que vous avez acheté. Genre, on veut standardiser la chose. Et c'est votre dernière chance de régler le problème. Donc, Rabbi Yoel Moshe, il dit pas de problème. Et il vient au rendez-vous où on lui a fixé le rendez-vous, et les Ottomans sont venus avec des chevaux pour qu'on fasse le tour de tout le domaine. Seulement, le cheval qui va être donné à Rabbi Yoel Moshe, c'est un cheval qui est fou. C'est volontaire. C'est un cheval qui est indomptable. Et donc, lorsqu'il monte à cheval, le cheval s'excite et part au galop dans une autre direction et emmène Rabbi Yoel Moshe très loin. Maintenant, s'il n'est pas là, il n'arrivera pas à faire le siour. Et comment dire, vous voyez, il nous a menti, il n'est même pas là, machin. Et donc, il n'y aura plus personne pour prendre fait et cause. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, vous savez que quand on est un chaliar d'Akadosh Baruch Hu, Et bien, Kadosh Baruch Hu, des fois, il nous aide. Et alors que Rabbi Yoel Moshe, il commence à se dire que je vais y aller en courant. Il y en a pour des kilomètres et des kilomètres. Je ne pense pas que je vais y arriver, mais je vais y aller en courant. Tout d'un coup, il rencontre un copain à lui qui faisait un tour avec son cheval dans les différents pardessim. Il lui donne le cheval. Rabbi Yoel Moshe arrive à l'heure, à l'endroit de la présentation, et il va pouvoir présenter tout le territoire là où il faut. Tov, à Kol Beseder. Maintenant, il est connu, Rabbi Yoel Moshe. Il est très connu parmi, on va dire, les Allemands, parmi les Ottomans, et Bichlal, dans le Yishuv, je t'en parle même pas, c'est une star. Et il décide, à la fin de sa vie, de faire son dernier grand projet. Maintenant qu'il connaît les autorités, il va pouvoir travailler et les travailler au corps mamash pour que les autorités ottomanes acceptent de délivrer un certificat d'aliyah pour celui qui deviendra le premier grand rabbin de Eretz Israël. Oui, vous m'avez compris. C'est effectivement Rabbi Yoel Moshe Salomon qui va tout faire et réussir pour faire venir le Rav Kook en Israël. Après avoir été chez lui pendant quelques mois, il a compris quelle était la grandeur du Rav et donc il se bat, et ce sera un de ses derniers combats, pour faire venir le Rav Kook à Jérusalem. Lorsque le Rav Kook arrive à Yafo, il sera évidemment parmi ceux qui viennent l'accueillir. Il a déjà une barbe blanche. Et alors que tout le monde connaissait Rabbi Yoel Moshe comme étant quelqu'un de soucieux, quelqu'un de, j'allais dire, sérieux, c'est peut-être pas le mot, mais voilà, très rétini. Voilà, rétini. Eh bien, lorsque le Rav Kook descend du bateau, alors qu'on avait l'habitude de le voir avec cette tête-là, d'un homme sérieux et rétini meod, eh bien, tout d'un coup, les yeux s'ouvrent, les cœurs s'ouvrent, et Rabbi Yoel Moshe se met à danser devant le Rav Kook en disant « Zéo, le Rav qui saura apporter la Neshama à ma Petach Tikva est arrivé. » Rabbi Yoel Moshe Salomon, le père des Moshavot, si Petach Tikva est appelé la mère des Moshavot, Rabbi Yoel Moshe est sans conteste le père des Moshavot, le rabbi qui a ouvert l'espoir de la résurrection. Chazak ou Baruch.
Quelle vie, quelle vie, quelle vie. Et tu nous as un lien.